Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Alors, avant d'entrer dans le sommaire de l'émission, je suis comme tout le monde, j'ai été bien embêtée parce que je voulais pas me taire, mais je voulais pas non plus dire n'importe quoi. Je trouve que il est bon de se taire de temps en temps au sujet d'un conflit dont je ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. Je ne suis pas brillante pour écrire quelque chose moi-même. Je ne suis pas au cœur de la tourmente non plus. Je n'étais pas à Paris le soir où les incidents sont arrivés. Il y a des choses que je ne suis pas capable de lire, tout simplement parce que je me mettrais à chouiner comme une madeleine. Figurez-vous que ça fait quand même depuis 5 jours que quand j'entends la Marseillaise, je pleure. Et me concernant, eh ben, c'est quand même pas rien. Alors, j'ai trouvé sur Internet ce texte de Michel Hazanavicius. Vous savez, c'est le réalisateur de The Artist. C'est une lettre adressée à Daesh et ma foi, je la trouve pas trop mal et j'espère que je vais réussir à vous la lire. Daeshois, Daeshoise. Donc ça y est, c'est officiel, vous êtes en guerre contre nous. Ce qui est frustrant, c'est que vous n'avez ni uniforme, ni signe distinctif, on ne sait pas vous reconnaître, et nous n'avons donc personne contre qui se battre. Frustration qui, j'espère, n'entraînera pas la désignation de faux coupables. Pourtant, même si chaque mort représente sans doute pour vous une victoire, il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas prêt de gagner. À dire vrai, c'est même impossible. Parce que quoi que vous fassiez, vous ne nous changerez pas. Ici, en France, nous, ce qu'on aime, c'est la vie et tous les plaisirs qui vont avec. Pour nous, entre naître et mourir le plus tard possible, l'idée est principalement de baiser, rire, manger, jouer, baiser, boire, lire, faire la sieste, baiser, discuter, manger, argumenter, peindre, baiser, se promener, jardiner, lire, baiser, offrir, s'engueuler, dormir, regarder des films, se gratter les couilles, péter pour faire rire les copains, mais surtout baiser et éventuellement se taper une joyeuse petite branlette. On est le pays du plaisir, plus que de la morale. Ici, un jour, il y aura peut-être une place Monica Lewinsky et ça nous fera rire. Personne ne l'a jugée ici. Alors, dans la baise, c'est vrai que nous, en France, on fait des trucs avec lesquels vous avez du mal. On aime bien lécher le sexe des femmes, pas tous sûrement, mais beaucoup d'entre nous. Et les fesses et le cul aussi. Là aussi, pas tous, mais bon. Et les femmes aiment bien faire des fellations, on appelle ça des pipes, c'est très agréable. Bien sûr, là aussi, toutes les filles n'aiment pas ça et on ne force personne, mais ça se fait régulièrement et avec beaucoup de plaisir. Et puis, il y a des garçons qui aiment bien ça aussi, se faire des fellations ou se lécher ou se pénétrer entre eux. Et les filles, pareil. En fait, ici, ce qu'on aime, c'est faire ce qu'on veut. On essaye de pas gêner les autres, c'est le principe. Mais on n'aime pas trop qu'on nous dise trop fort ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Ça s'appelle la liberté. Retenez bien ce nom, parce que au fond, c'est ça que vous n'aimez pas chez nous. Ce n'est ni les Français, ni les caricaturistes, ni les Juifs, ni les clients de café, ni les amateurs de rock ou de foot. C'est la liberté. La deuxième chose, c'est quand tuant comme ça à l'aveugle avec un objectif uniquement comptable, vous prenez le risque de tuer des Français de plus en plus représentatifs de la France. À la limite, en ne tuant que des Juifs ou que des dessinateurs, les non-Juifs qui ne savent pas dessiner pouvaient toujours trouver des excuses ou se sentir étrangers à cette guerre. Mais là, ça va être de plus en plus dur. Parce qu'en atteignant un échantillon représentatif de la France, vous allez toucher à ce que nous sommes vraiment. Et qui sommes-nous vraiment? Eh bien, c'est justement ce qui est beau ici. C'est que nous sommes plein de trucs. Bien sûr, il y a quelques Français, 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 mais il y a des Français italiens, des Français espagnols, des Français arabes, des Français polonais, des Français chinois, des Français rwandais, des Français sénégalais, des Français algériens, berbères, ukrainiens, géorgiens, américains, belges, portugais, tunisiens, marocains, tchétchènes, ivoiriens, maliens, syriens, des Français catholiques, des Français juifs, des Français musulmans, des Français taoïstes, des Français bouddhistes, des Français athées, des Français agnostiques, des Français anticléricaux, des Français de gauche, des Français de droite, des Français du centre, des Français abstentionnistes, des Français d'extrême gauche, d'extrême droite. Il y a même sans doute des Français djihadistes et même des Français futurs terroristes que vous risquez de tuer. Il y a des Français riches, des Français pauvres, des Français sympas, des Français gros cons, des Français amoureux, des Français égoïstes, des Français misanthropes. La liste pourrait s'étendre presque à l'infini avec toutes les combinaisons et tous les sous-groupes possibles. Il y a même des Français non-Français parce que la France étant si belle, il y a toujours et constamment une partie de notre population qui est les touristes. Sans compter les clandestins qui ne sont peut-être pas officiellement français, mais quand même ils vivent là, donc vous pouvez les tuer comme tout le monde. Ça s'appelle l'égalité. Face à la mort, vous pouvez toujours cibler ce que vous voulez. Vous nous toucherez tous. Et on va comprendre, nous, ce à quoi vous vous attaquez, nos valeurs, simples. celles qui font que la vie ici ressemble à ce qu'elle est, imparfaite, certes, avec son lot d'injustices, c'est vrai, mais ce sont ces valeurs qui font que nous vivons d'ici de manière aussi digne que possible. Ce pays dans lequel nos pères et les pères de nos pères et leurs pères, avant eux, ont choisi de vivre et pour lequel beaucoup d'entre eux se sont battus. Et ce qui va arriver à un moment ou un autre, c'est que nous allons être solidaires grâce à vous. Nous allons comprendre que ces valeurs sont en danger et nous allons donc les aimer et les faire vivre encore plus fort ensemble. Ça s'appelle la fraternité. C'est pour ça que vous ne pourrez pas gagner. Vous allez faire des morts, oui, mais aux yeux de l'histoire avec un grand H, vous ne serez que les symptômes abjects d'une idéologie malade. Bien sûr que nous ne gagnerons pas non plus. Des gens vont mourir pour rien. D'autres vont décider de s'en remettre à des Le Pen, des Assad ou des Poutine pour se débarrasser de vous. Et nous allons peut-être doublement perdre, mais vous ne gagnerez pas. Et ceux qui resteront continueront de baiser, de boire, de dîner ensemble, de se souvenir de ceux qui sont morts et puis de baiser. Voilà, c'était le texte signé Michel Azanavicius. Et ma foi, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour ouvrir cette émission. Au sommaire de cette émission, donc, nous avons rendez-vous avec une merveille. J'ai pas d'autre mot. Ouf, la vie est ainsi faite, on va continuer par une merveille. En 2011, j'avais déjà adoré Portugal de Cyril Pedrosa. C'est une bande dessinée et plutôt encore Trois Ombres qui m'avait laissé là sur le carreau. Ça, c'était en 2007. Du coup, Cyril Pedrosa, c'est comme Manu Larsonnet. Quand un nouvel album sort, je me rue dessus. Et c'est encore du très, 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 très bel ouvrage, du très grand travail que nous offre Cyril Pedrosa avec cet album Fleuve qui compte pas moins de 330 pages et qui est sorti tout récemment chez Dupuis, que nous retrouvons cet auteur, scénariste, illustré, adoré. Et comme j'en ai de la chance, eh bien, d'ici une poignée de minutes, il répondra pour vous et moi à toutes mes questions au sujet de ce travail incroyable qu'il vient de nous offrir et qui s'appelle Equinox. Mais avant toute chose, et comme on croise Coltrane dans les Equinox, écoutons plutôt ça. Thank you. C'était Coltrane avec ce titre Equinox pour faire écho à les Equinox, cet album de bande dessinée incroyable que vient de nous offrir Cyril Pedrosa chez Dupuis. Incroyable, car il est un travail fleuve, où se croisent des vies. Celle de Pauline, dont les parents sont divorcés, celle d'un vieil homme et son colocataire qui milite activement pour la non-ouverture d'un aéroport en Bretagne, tiens. Celle du père de Pauline qui a du mal à accepter de vieillir et qui retrouve son frère, devenu pasteur. Un album exceptionnel aussi, car il fait s'entremêler des aspects différents. Chaque saison s'ouvre par quelques planches silencieuses qui nous donneraient des couleurs, presque naïvement, de façon archaïque, les couleurs de la saison, et comme elles sont belles quand on connaît l'importance de la couleur chez Pedrosa. Puis s'entremêlent des bouts de texte, sans images. Le tout sur 330 pages de plaisir total, avec comme matériau brut, comme point de départ, cette question que pose le frère de Pauline sur plutôt le dernier tiers de l'album. Si je ne suis plus en mouvement, si je ne doute plus, et si... Alors, est-ce que je trouverai la force de continuer ? Maintenant que j'espère vous avoir donné un tantinet ou envie d'ouvrir cette merveille, j'ai l'immense honneur de recevoir Cyril Pedrosa. Cyril Pedrosa, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page. Tout d'abord, merci, mais alors vraiment un grand merci pour les équinoxes. J'ai noté que lors de chaque ouverture de chapitre, qui sont des saisons, les chapitres, on assiste à une sorte de tableau qui évoquerait presque la Genèse, si on lui ôte son sens biblique, le berceau, comme un berceau d'humanité, avec en point commun ce petit garçon. Était-ce là quelque chose qui pourrait être le point de départ de ce travail incroyable que sont les équinoxes ?
Alors, c'est pas exactement le point de départ. Étrangement, quand j'ai commencé à travailler sur le livre... des monologues, en fait, des récitatifs qu'on retrouve au fur et à mesure du récit. Et c'est ces textes-là qui ont été vraiment le moteur, en fait, de l'histoire, de la création des personnages, de la façon dont ensuite ils allaient être en relation les uns avec les autres. Alors, je vous dis ça, et en même temps, c'est à moitié vrai, parce que au tout départ, il y a eu une expérience que j'ai vécue en visitant la grotte de Pechmerle, dans le sud-ouest de la France. J'ai appris et j'ai vu qu'il y avait dans cette grotte des traces de pas. Et c'était un moment assez émouvant, en fait, cette découverte-là, partagée avec tous les visiteurs, évidemment, de la grotte, et qui a laissé une trace en moi comme ça, et qui est revenue, en fait, au moment où j'ai travaillé sur cette histoire, et où je cherchais à tendre des arcs comme ça, à rendre visibles, perceptibles les relations entre les êtres humains, non seulement dans une époque contemporaine, mais même à travers le temps, en fait, la façon dont nous sommes interdépendants.
Vous nous posez aussi face à l'aéroport, à cette espèce de combat qu'il y a autour de l'aéroport et qui fait forcément écho à l'actualité et qui serait pas de fiction, elle, au monde du travail quand il est âpre, à la vieillesse, à la fin de vie, à la perte d'un enfant encore, la perte des parents, à l'ennui, avec ce texte magnifique de la petite fille qui se tient à carreau dans le supermarché. Alors celui-là, alors vraiment, vous évoquez tout cela dans les équinoxes. Est-ce que vous avez été traversé à un moment ou à un autre par une volonté de dire l'instant de désarroi?
C'est exactement ça. Je pense même que c'était ce que j'avais en tête en travaillant tout le long de cette histoire. C'était, en fait, les premiers textes sur lesquels j'ai travaillé, qui sont des récitatifs qu'on retrouve à l'intérieur du récit, lorsque Camille prend en photographie des personnages qu'elle rencontre dans la rue, on a accès comme ça à leur intimité, à ce qui les traverse dans l'instant. Et ce qui les traverse dans l'instant, la plupart du temps, ce sont des instants de désarroi. Une incapacité, un trouble intérieur, ténu, fugace, qui leur semble impossible à partager, et auquel parfois eux-mêmes n'ont pas accès. C'est-à-dire que cette voix qui les décrit, c'est une voix omnisciente. Et quand je travaillais, moi j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à me concentrer sur ce sujet-là. Comment rendre compte de ces instants de désarroi? Alors, vous l'avez décrit de plein de façons, à la fois de façon extrêmement intime, je pense qu'on est tous traversés par ce type de bouleversement, et puis à l'extérieur de nous, à travers les crises sociales, à travers la violence de relations, la déception des relations, enfin tous ces moments qui nous mettent en difficulté, mais qui en même temps racontent que nous sommes des êtres humains.
Tout à fait. Et alors, dans les équinoxes, il y a le surgissement comme ça de l'écriture dans votre travail. Vous l'avez ressenti comme un besoin, comme une nécessité absolue, cette présence de l'écrit?
Ah oui, comme une nécessité absolue. C'est-à-dire que pour saisir cette intériorité-là des personnages, je me sentais extrêmement démuni avec le, langage strict de la bande dessinée. C'est quelque chose que j'avais déjà un tout petit peu éprouvé en travaillant sur mon précédent livre qui s'appelait Portugal, où je me sentais parfois en difficulté pour arriver à rendre compte de ce qui animait un personnage. La bande dessinée, c'est un art de la représentation. On est à l'extérieur des personnages, on les dessine, à l'extérieur des situations, on les dessine, on les représente. Ce qui permet un champ immense, en fait, ce qui offre un champ immense de possibilités. Mais dès lors qu'il s'agit d'attraper le silencieux, le caché, l'intérieur, ce qu'on ne se dit pas à soi-même, tout ça, si on n'utilise pas les mots, je ne sais pas comment y accéder, en fait. Et donc, moi, j'ai senti le besoin, enfin, la nécessité, tout d'abord, la nécessité absolue de passer par les mots et par la littérature pour arriver à parler de tout cela. Et en plus, un besoin personnel, un besoin d'écriture et d'essayer d'aller plus loin dans ce travail d'écriture personnelle.
Complètement. Alors malheureusement, nous sommes à la radio. J'espère que nous nous rencontrerons aussi en dehors de ce média. Il va falloir faire court. On aurait pu parler de la présence, en plus de cette écriture, de la présence des livres tout au long des équinoxes qui sont partout, jusqu'à cette acmé où Antoine lit à Louis sur son lit de mort un passage de Virginia Woolf. Vous ne couperez pour autant pas à la question Rock and Page. Si vous deviez choisir un titre de musique pour évoquer ce travail, vous choisiriez lequel? À part les Smiths et Coltrane, forcément, ça vous l'avez déjà dit à l'intérieur des Equinox.
Ah, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Mais est-ce que tu aurais cité un autre titre qui est un autre morceau qui est à l'intérieur de l'album?
Bien sûr.
Alors, c'est une chanson de John Wilby qui s'appelle The Saints. My Glory is Bright. C'est un madrigal anglais qui est vraiment très très beau et c'est un chant polyphonique et c'est quelque chose auquel je pensais beaucoup en écrivant cette histoire. De cette façon, quand on chante à plusieurs, la voix de chacun reste présente et en même temps, en se mélangeant, elle forme quelque chose de singulier.
Eh bien, c'est tout à fait le principe des équinoxes. Merci Cyril Pedrosa, merci beaucoup.
Merci à vous. Yours are
Voilà, ça c'était Agnès Obel, et avant Agnès Obel, Cyril Pedrosa, merci à lui. Pour vous dire la sensation que m'a laissé, Agnès Obel pour le coup, la sensation que m'a laissé la lecture des Équinoxes, cette somptueuse bande dessinée que vient de nous offrir Cyril Pedrosa et qui vient aussi de répondre à toutes nos questions. Les Équinoxes nous mettent face à des vies qui se frôlent et s'entrecroisent au fil des saisons en nous questionnant sur la vieillesse ou l'ennui, les combats politiques, les convictions, l'adolescence, le couple aussi, mais surtout en appuyant sur une chose. Si nous ne prenons pas le temps, mais où va-t-on ? Les illustrations continuent de nous couper le souffle. Comme toujours, nous sommes chez Pedrosa, qui, je vous le rappelle, sait rien que cela, dessiner la lumière, la restituer. Les Équinoxes de Cyril Pedrosa sont mon coup de cœur BD de l'année, haut la main, loin devant. L'offrir à ceux que vous aimez à Noël, ceux à qui vous avez envie de dire « Allez, viens, on met les pouces, comme quand on était minot, et on prend le temps. On s'enfuit, on prend le temps. » On prend le temps de se poser des questions, de passer par la complexité pour comprendre ce qui se passe, de laisser résonner, naître, arriver des réponses. Vous pouvez l'offrir en fermant les yeux à toutes celles et ceux à qui vous souhaitez beaucoup, beaucoup de bien et de richesse. La seule qui vaille si nous avons encore besoin de preuves aujourd'hui, celle qui ne se voit pas, celle que l'on est. Et pourtant de beauté, Monsieur Pedrosa, merci et chapeau bas. Rock'n'Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno qui a réalisé la technique de cette émission. Vous pouvez retrouver tous les anciens numéros de l'émission sur le blog qui lui est consacré. Vous avez qu'à taper Rock'n'Page dans Google et vous tomberez sur le blog. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, prenez soin de vous. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever's greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Break down our weed, build our breakfast down, and say, my love, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, and toe to toe. Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle.